I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel du rendez-vous jeu, exceptionnel pour tout un tas de raisons. D'abord, on est en live sur Twitch, comme je vous l'avais promis. Je me lance dans la vidéo après la chaîne YouTube. Il y a le Twitch qui est là également. Alors, c'est un petit test un peu confidentiel. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la chatroom, mais c'est le début. Donc, j'espère que vous allez apprécier si vous êtes là avec nous. Exceptionnel également parce qu'on va parler de la PlayStation 5 et des révélations incroyables qui ont été faites dans la présentation d'il y a quelques heures à peine, avec le prix, les jeux, et puis quelques surprises dans le bon sens et peut-être un peu dans le mauvais sens également. Je suis Patrick Béja, et dans cette émission, on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo. Et aujourd'hui, l'actu, elle est bien pleine. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais quand même présenter mes co-animateurs, puisque d'une part, il y a la personne dont tout le monde attendait le retour. Bon, tu as été dans l'émission quand même à quelques reprises, mais et surtout, tu as lancé avec moi Azeroth.fr il y a presque 15 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Dany, comment ça va ?
Eh bien écoute, super content d'être là, et en plus c'est assez incroyable de pouvoir te voir en live sur Twitch, avec un léger décalage. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà en train de regarder le stream, et à ceux qui auront juste l'occasion, les millions, les dizaines de millions qui vont écouter le podcast tout à l'heure.
Évidemment. Je dois faire un aveu à l'audience et des excuses à Dany. C'était ton anniversaire il y a 2 semaines environ, et j'ai complètement oublié. Je t'ai envoyé un SMS pour m'excuser, mais tu m'as même pas répondu, donc je suspecte que tu es encore, tu m'en veux encore, et je te comprends. C'était impardonnable.
Bah exactement. D'ailleurs, je ne vais pas te parler du tout pendant le podcast. Je vais t'ignorer.
Écoute, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas parce qu'on a également en deuxième invité, troisième chaise de ce podcast, Trinity, alias Priscilla Poirel. Comment ça va, Trinity?
Eh ben, ça va très très bien, et si tu ne parles pas, Dany, t'en fais pas, je parlerai pour toi, vu que j'aime bien discuter, et surtout que là, on a de l'actualité croustillante, donc je suis hyper contente d'être avec vous pour cet épisode.
Super, merci beaucoup, vraiment heureux de t'avoir dans l'émission. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es streameuse, et on en parlera un petit peu plus en fin d'émission pour que les gens sachent où ils peuvent te retrouver. Je crois que c'est pas trop compliqué, hein. Quand on a dit Trinity,
ouais, non,
je crois que ça devrait aller. Alors, avant de nous lancer dans la PlayStation 5, on va aussi parler de l'Oculus Connect, de l'UbiForward, des quelques jeux qu'on a testés ces derniers temps. Mais avant tout ça, je voudrais remercier ceux qui permettent à l'émission d'exister, ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, sur patreon.com/rdvjeux, et notamment aujourd'hui Alexis Blanc, Thomas, Yannick Boss, avec un seul S, mais c'est quand même un boss, Rive Beach, Olivier Carman, Alex 13, pas le 15, hein, le 13 il est bien meilleur, Reinhardt, Valentin Queraro, Gauthier Dubuis et Nidelette, c'est compliqué à prononcer ton nom. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission, c'est grâce à vous qu'on peut être là, et ça me fait évidemment hyper plaisir d'avoir une communauté aussi forte. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur le Discord, je suis sûr qu'il y aura des commentaires intéressants pendant l'enregistrement, mais bon, c'est prioritairement sur le chat du Twitch. Le Discord, ça sera pour l'after show, pour les gens qui sont qui soutiennent l'émission justement sur Patreon. Bon, donc, les remerciements très chaleureux et sincères sont faits. Maintenant, on va pouvoir parler de la PlayStation 5. Et je vais faire un truc sur Twitch. Hop, alors non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là que je voulais. Et on va enlever cette source. Ça, c'est mes notes, hein, pour ceux qui ne savent pas. Les notes, voilà, pour cet épisode, il y a 100 lignes de notes. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Et on va commencer donc avec la présentation de la PlayStation 5 d'hier. On va peut-être diviser les choses en jeux, consoles, et les choses importantes à retenir, on verra qu'est-ce qu'on dit à quel moment, mais les jeux, la grosse surprise que certains espéraient, mais dont on n'était pas sûr, c'était Final Fantasy XVI qui a été annoncé, qui a une exclusivité sur la PlayStation 5, il n'y a pas de date de sortie, mais exclusivité console. On ne sait pas si ça sera une exclusivité temporaire, on suspecte que oui, sans doute, parce que quand même, il y a beaucoup d'argent à se faire sur les autres consoles. Mais Final Fantasy XVI, quand même, avec un gros, gros trailer, on va en parler dans un instant. Spider-Man, Miles Morales, que j'ai également sous-titré la démo Ray Tracing, parce qu'il y avait énormément de Ray Tracing, et beaucoup d'action qui sortira au moment de la sortie de la console, mais une première surprise qui sera également disponible sur PlayStation 4. Et ce n'est pas le dernier de ces jeux qu'on pensait exclusif à la PlayStation 5, qui sera également sur PlayStation 4. C'est un petit peu une Xboxisation de la PlayStation. On a également Hogwarts Legacy, le jeu qui semble être un jeu multi, jeu service basé sur Harry Potter, qui se passe assez intelligemment 100 ans avant les événements de la série de livres. Donc ça donne un bon moyen d'avoir de la liberté dans ce qu'on fait dans le jeu. Un trailer de la partie solo de Call of Duty Black Ops Cold War, que j'arrive à dire en un seul essai désormais. Alors, cinématique de folie, je ne sais pas si tout le jeu sera comme ça, mais bon sang, alors c'était très violent, mais c'était hyper impressionnant. Là, pour le coup, rien à envier au cinéma. On a également le multi qui sera en alpha test dès demain. Donc, si vous avez une PlayStation 4, sur PlayStation 4 uniquement, vous pouvez jouer au multi de Call of Duty Black Ops Cold War. Resident Evil 8 Village, puisqu'il y a un V et deux L, qui y a un passage intéressant avec une sorte de conte de fées qui sort beaucoup, une illustration d'un conte de fées qui était des graphismes complètement différents. Je me demande si c'est un truc qu'on va avoir dans le jeu à plus d'une reprise, mais il sort en 2021. Et puis toute une série d'autres jeux, Deathloop, qui sera exclusif console, qui sort en 2021, Devil May Cry 5 Special Edition, avec Virgil jouable, Oddworld Soulstorm, qui a failli m'endormir, Five Nights at Freddy's, je sais plus le sous-titre, mais bon, c'est un Five Nights at Freddy's. Là encore, moi j'ai trouvé la présentation assez efficace, alors que j'ai rien à faire de Five Nights. Fortnite, disponible à la sortie sur PlayStation 5, une annonce de folie. Et puis surtout, Demon's Souls Remaster, qui lui aussi sera disponible à la sortie, également sur PC, mais disponible à la sortie sur PS5. Et un petit teasing de God of War Ragnarok, dont moi j'aurais... Bon, évidemment, God of War, ça me dit beaucoup, mais j'aime pas trop quand on montre qu'un seul écran titre, sauf que quand il y a une date, ça peut aller quand la date est assez proche, parce que là, c'est censé sortir en 2021. Donc, c'est quand même sympa, une annonce sympa, c'est pas juste du vent, comme c'est parfois le cas quand on voit juste un logo. Là, ils ont donné une date. Alors, qu'ils s'y tiendront, ils s'y tiendront pas, on sait pas, mais c'est quand même important. Et puis voilà pour les jeux qui ont été présentés. Je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé et je me retourne vers tous les deux. Je vais donner la parole à Trinity d'abord. Il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas si toi, si tu es plutôt PC ou console, mais est-ce que ça te parle tout ça et qu'est-ce qui t'a plu ?
Alors moi, je suis les deux en fait. C'est-à-dire que j'ai à la fois un PC et j'ai toutes les consoles. Donc, pour vraiment pouvoir un petit peu jouer à toutes les exclus, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à la fois sur console et à la fois aussi sur PC. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et effectivement, moi, j'ai vraiment été interpellée par le sorte de Harry Potter, le Hogwarts Legacy, auquel je m'attendais pas. Et pourtant, je suis pas une grande fan à la base. Mais il m'a plutôt tentée. Ça a l'air bien travaillé. Et effectivement, on n'est pas sur l'univers le classique avec tous les personnages qu'on connaît, donc je pense que ça va permettre d'avoir plus de liberté, un petit peu en mode RPG. Donc celui-là m'a pas mal interpellée. Bien évidemment, moi, Resident Evil, c'est une licence dont je suis fan depuis que je suis très jeune. C'est cette licence-là qui m'a plongée dans le jeu d'horreur. Donc Resident Evil Village, qui est un petit peu, en plus, je trouve, des petites inspirations du Resident Evil 4, ce côté un peu forêt, village, etc. Pareil, très très tenté par celui-là. Et Demon's Souls, quoi. Moi, Demon's Souls, ça fait partie, c'est le jeu qui m'a plongé en fait dans la saga des Souls, qui a fait que je suis devenue complètement accro après à tout ce style de jeu-là. Donc je suis très contente de le voir arriver en remaster sur la console. Alors après, il y a un petit débat, peut-être qu'on en parlera après, il y a eu un petit débat par rapport au prix, parce qu'il y a quand même des variations de prix en fonction des jeux et des prix qui augmentent sur certains titres au niveau de la PS5. Mais dans l'ensemble, moi, je suis plutôt satisfaite des annonces qui ont été faites et God of War, bien évidemment. Alors, on n'a rien vu, mais God of War était quand même excellent le dernier. Donc, je pense que celui-ci saura être à la hauteur.
Écoute, déjà sur correction, c'est l'utilité de la chatroom qui est totale. Demon's Souls a été annoncé qu'il ne sortirait pas sur PC, que c'était une erreur. Donc c'est bien une exclusivité PS5 au lancement. Ça aurait été surprenant parce que c'est un jeu vraiment PlayStation Studios, donc c'est effectivement uniquement PlayStation 5. Merci à la chatroom. Donc oui, il y a quand même des choses intéressantes et il y avait des jeux qui étaient séduisants, je dirais. Dani, toi, il y a des choses qui t'ont plu aussi ?
Eh ben, écoute, je suis assez aligné fan de en japonais, fait, avec Trinity.
Fan mais, de japonaiserie, ouais. Final Fantasy XVI, c'est tout de suite.
Écoute, le 15 ne m'a pas du tout plu, le 12 non plus, le 13 non plus. Y en a, disons que... Voilà, le gameplay qui a l'air assez nerveux m'a parlé. J'aime bien aussi le retour un peu aux origines à un jeu d'heroic fantasy. Par contre, ça allait d'être
on va dire médiéval,
très, très inspiré du Witcher. Ouais.
Oui, on est d'accord. Il y avait vraiment... Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu vois, parce que moi, j'ai pas trop rebondi dessus. Je suis pas forcément Final Fantasy de base. Jetez-moi des cailloux. Mais moi, vraiment, c'est pas forcément mon délire de jeu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance hyper, hyper dark, vraiment à la The Witcher, comme tu étais en train de dire, qui, moi, personnellement, m'a pas mal interpellé et m'a donné envie d'aller vers le jeu.
Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais j'aimerais, en fait, ce que j'espère, c'est qu'ils arrivent à trouver aussi une patte graphique ou une ambiance qui soit pas uniquement un copier-coller de Witcher, mais qu'ils arrivent à mettre la patte Final Fantasy dessus. Voilà, donc c'est, ouais. J'ai une tu vois, le début qu'on voit dans la vidéo, effectivement, on le reconnaît très très bien. Ensuite, les phases avec des dialogues, des personnages et tout, j'ai trouvé ça quand même très très Witcher, ou un peu japonisé.
C'est un peu, c'est un peu l'image qu'ont les Japonais des univers médiévaux fantastiques occidentaux. Moi, je trouve que c'est quand même assez Final Fantasy / japonisant. Ceci dit, ils avaient la précision que ça tournait sur PC émulant une PlayStation 5. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'ils pourront réussir à atteindre le niveau quand ça sortira vraiment sur PlayStation 5 ? Moi, j'étais pas hyper impressionné par les graphismes. Il y a quelques éléments, tu dis, ok, c'est peut-être un peu mieux que la PlayStation 4, mais je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes parce que j'ai pas trouvé ça totalement
fou. C'est pas tombé par terre, hein, graphiquement, je trouve. Ouais.
C'était beau, mais on n'a pas senti un bond en avant, quoi. Parfois ça peut arriver sur certains jeux. Après, il faut dire quand même qu'au niveau des Final Fantasy, ils ont toujours été quand même très en avance au niveau des graphismes. On a quand même toujours eu des jeux très beaux, mais c'est vrai que quand on est sur une conférence, sur une nouvelle console, parfois on s'attend à que ça claque, quoi. Vraiment, on se dit, ah oui, là je vois une différence. Le jeu était beau, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'était beau, mais il n'y avait pas non plus le truc en plus qui fait qu'on va se dire waouh, c'est vraiment un truc de dingue.
Bah, surtout quand on compare au FF7 Remake qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, c'est pas.
Il est récent.
C'est pas incroyablement plus beau.
Oui. Moi, je vais peut-être... Alors, évidemment, Final Fantasy XVI, c'est un gros morceau hein, pour les fans, et surtout les fans de PlayStation qui sont plutôt côté Japon. Et je crois qu'effectivement, c'était une belle surprise pour ouvrir la conférence. Évidemment, il ne sera pas disponible au moment du lancement. Donc, c'est un petit peu la promesse de l'avenir. On n'a même pas de date, genre 2021, donc on ne sait pas. Moi, je vais... pas casser l'ambiance, mais je vais dire que j'ai été quand même assez impressionné par Call of Duty. J'ai trouvé que Call of Duty, la présentation qu'ils ont fait, la partie solo, ça excelle dans ce que promet Call of Duty, c'est-à-dire une campagne de folie avec des moments qui rivalisent avec des films qui sont, comment dire, c'est le film d'action tel qu'on aimerait pouvoir le vivre en jeu vidéo. Et il y a des moments avec des ralentis, des scènes d'action, de poursuites en voiture, ça pète de partout. Enfin, c'est Call of Duty à son meilleur, en tout cas dans cette démo. Et de là que, alors Modern Warfare l'année dernière, il était sympa. De là que moi, j'étais pas forcément intéressé par celui-là. Après cette présentation, je me dis, ça peut être 5 heures de jeux, allez, pas 5 heures, 10 heures pour la campagne, qui valent vraiment le coup. Et alors, c'était hyper violent. Il y avait des moments avec des coups de couteau dans la tête, des trucs vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché parfois, mais c'est ce qu'on demande à Call of Duty. Et si le jeu réussit à avoir, j'imagine que ça ne sera pas systématiquement comme ça pendant les 10 heures de campagne, mais s'il réussit à avoir, on va dire, 4-5 gros set-piece, moments impressionnants comme ça, je crois que ça revient au meilleur de Call of Duty. On verra ce que ça donne réellement, mais moi, j'ai été très surpris. Et puis, bien sûr, je vous laisse.
Non, bien sûr, pardon, je ne veux pas te couper.
Si, vas-y, il faut me couper, sinon je ne m'arrête jamais.
J'étais assez d'accord avec toi, c'est vrai que je n'ai pas rebondi, sur Call of Duty. Call of Duty, moi, c'est une longue histoire, ça a été un peu en dents de scie, c'est un peu une histoire d'amour-haine, tu vois, par moment. Et c'est ce qu'on attend, effectivement, de Call of Duty. C'est hollywoodien, en général, les campagnes duraient dans les 7 heures, et c'est ce qu'on attend. Et à une époque, ils avaient fait la grossière erreur d'enlever le mode campagne, ne laisser plus que le mode multi, alors qu'en fait, ils ont vraiment quelque chose à offrir par rapport à ça, et c'est juste un film. Tu regardes un film, c'est de l'action, c'est à 300% pendant tout le jeu, et effectivement, je trouve qu'ils ont vraiment bien, pour moi, alors ils n'ont jamais chuté, mais ils ont bien remonté la pente par rapport à certains opus qu'ils ont fait par le passé, en tout cas au niveau des campagnes solo.
Ouais, je crois qu'on est assez d'accord. Alors Call of Duty, bien sûr, il sera dispo sur Xbox aussi, donc on parle pas d'exclus PS5, mais je veux mentionner Spider-Man, Miles Morales, qui est, alors lui, il sera dispo, comme on disait, sur PS4 aussi, mais la version PS5, c'était Ray Tracing City, comme je le disais, surtout dans la première partie où il marche tranquillement dans New York, mais la scène d'après, c'était une scène d'action. On imagine là encore que ça sera pas à chaque moment du jeu aussi impressionnant, mais la partie en question sur l'un des ponts de New York, c'était ouf, mais ça t'en met plein la vue, c'est assez fou, quoi. C'est très convaincant. Ouais,
C'était une claque visuelle, et pourtant ils vont dire mais elle aime rien, mais je suis pas une grosse fan de jeu, je suis pas une grosse fan de Spider-Man de base, j'avais quand même joué à celui qui était sorti il y a peu de temps, mais effectivement, quoi, c'est une claque, même si tu n'es pas fan. En fait, ça donne envie d'y jouer. Ça donne envie d'y jouer parce qu'il y a eu effectivement ces deux séquences, une calme et une autre un petit peu plus, beaucoup plus péchue. Et puis le jeu est magnifique. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un souci accordé aux détails quand il marche au début dans l'espèce de marché là et tout. J'ai trouvé ça hyper impressionnant.
Ouais, je crois qu'on est assez d'accord. Justement, parlons un petit peu de cette question de la compatibilité PS4 et de ce qui va se passer à ce niveau-là. Je crois que c'était un petit peu une surprise de voir qu'il y aurait autant de jeux qui seront également sur PS4. Horizon Forbidden West et bon, Sackboy A Big Adventure, je crois qu'on s'en fout un petit peu plus, mais Horizon et...
Oh, yes, fin.
Horizon et Spider-Man au moins disponible également sur PS4. C'était l'une des choses qu'on pouvait reprocher, si on était un petit peu pinailleur, à la concurrente, à la Xbox, c'est de dire tous nos jeux vont être disponibles sur Xbox Series X et Xbox One pendant un bon moment. Là, on se retrouve dans le même scénario. Je dois avouer que, hormis le petit faux pas de Halo, qui était clairement pas très beau, on sent que le développement a été commencé avec la Xbox One en cible. Là, ce qu'on voit de Forbidden West et de Spider-Man, si la next-gen, c'est ça, et ça s'applique complètement à la Xbox Series S et Series X aussi, parce qu'ils ont, à ce niveau-là, au niveau du ray tracing et des performances graphiques, ils en ont autant dans le ventre que la PlayStation 5. Mais si on est à ce niveau de claque graphique, je pense que ça peut le faire. On a la même impression sur Dark Souls, d'ailleurs. Sur Demon's Souls, qui était super beau. Et d'ailleurs, un peu plus dynamique, j'ai trouvé, que le souvenir que j'avais du tout premier. Il date d'il y a plus de 10 ans, donc ça date. Mais ouais, un peu plus dynamique, ça m'a donné envie, moi. Alors que je ne suis pas du tout client de ce genre de truc, d'habitude. Mais oui, donc là... claque graphique est carrément là. Là où ça met un petit peu en retrait les espoirs qu'on pouvait avoir du changement de génération, c'est qu'au moins au début, vous vous souvenez, je ne sais pas si les auditeurs qui écoutent l'émission depuis un moment, quand on avait vu les présentations PlayStation 5, moi, à chaque fois, je disais, OK, c'est très beau, il y a des trucs qui ont l'air de taper, mais on ne voit pas l'intérêt du SSD ultra méga rapide. Vous savez que la série S, série X a un SSD ultra rapide, la PS5 a un SSD ultra ultra rapide. Mais dans aucun des jeux, on ne voyait l'intérêt de ces trucs-là dans le game design, à part dans Ratchet & Clank, et même ça, c'était un petit peu récent. Je crois que ça s'explique par cette raison. C'est que les jeux, en fait, il y en a beaucoup qui arrivent aussi sur PS4, donc ils ne peuvent pas exploiter le SSD ultra méga rapide dans le design des jeux, à part ceux qui sont uniquement sur PS5. Donc, ce que ça veut dire, quand je disais Xboxisation de la PS5, ça veut dire qu'on est un petit peu sur un pied d'égalité sur ça. Dans les deux premières années, on ne va pas avoir d'expérience qui change complètement dans le game design, quoi.
Mais c'est souvent la même chose, en fait, dans les consoles qui ont des mid-life kickers. Donc, par exemple, tu regardes la 3DS avec la, je ne sais plus comment elle s'appelait, la New Nintendo 3DS. Il n'y a eu aucune différence. Et souvent, en fait, quand ils font des step-up comme ça, comme la Xbox One et la Xbox One X, oui, il y a une différence, ou la PS4 et la PS4 Pro, mais elle n'est pas massive au point 2. Et j'ai peur que, en fait, c'est le plus petit dénominateur commun qui fait qu'en général, les développeurs, ils vont faire un jeu sur la console qui est à la base installée la plus importante, logique, et ensuite il y aura quelques petites améliorations, mais le jeu il sera pas designé pour la console la plus puissante.
Mais je pense qu'il va falloir, comme ça s'est souvent présenté comme ça, même par rapport aux anciennes générations, comme tu le disais, en général, il faut 2 ans. Moi, je pars du principe que quand il y a une nouvelle console qui arrive, effectivement, on va peut-être avoir un ou deux jeux qui vont sortir du lot, mais on va rester un peu dans cet entre-deux, cette transition. Et je trouve que la vraie transition au niveau de la console, elle se fait au bout de 2 ans. Rien qu'au niveau du catalogue, au niveau de tout, et ils commencent vraiment à travailler les jeux pour cette console-là, parce que l'autre est vraiment, ça y est, elle est un peu mise, entre guillemets, au placard. Donc, il y a toujours cette espèce de changement où on va avoir des jeux qui seront effectivement dispo sur les deux. Et là où on verra la différence, effectivement, c'est pour les exclus qui ne seront que sur cette console et qui seront vraiment des jeux qui sortiront que sur PS5 ou sur la Xbox.
Ouais, je crois que la différence qu'on peut voir là avec ce qu'on a vu par le passé, c'est que, d'une part, la PS5, Sony, ils ont été un petit peu sneaky, hein, ils l'ont pas dit, donc on se disait peut-être que ça prendra et qu'ils l'ont pensé pour certains jeux dès le début, mais clairement, c'est pas le cas, et puis il faut du temps pour avoir le bon design. La différence avec la New 3DS que tu mentionnais, Dani, avec raison, c'est qu'au final, on a eu sur New 3DS quasiment aucun jeu qui exploitait les performances de la nouvelle. Là, sur le long terme, ça risque d'être le cas, et la promesse, c'est que la PS5, contrairement à la Xbox, elle a ce SSD ultra méga rapide qui peut influencer le game design. Alors que souvent, enfin parfois, ça dépend des consoles, mais on a des éléments qui sont juste des plus beaux graphismes, des plus belles capacités, mais pas forcément un design différent. Là, il y a cette promesse-là, c'est juste qu'elle ne sera pas tenue sur les deux premières années de la console. Encore que peut-être que God of War aura des trucs qui l'exploiteront, et s'il sort effectivement en 2021, ça sera un peu plus proche, on va dire.
Puis ça dépendra aussi de la base installée de PS5, tu vois, à partir du moment où ils vont atteindre des 20, 30, 40, 50 millions, ça va motiver aussi les éditeurs à retravailler, optimiser leurs jeux et à les penser pour la PS5.
Complètement.
Ouais, c'est sûr. Là où, encore une fois, c'est différent, c'est cette histoire de SSD qui différencie la PS5 et la génération PS5 par rapport à la Xbox, qui a évidemment un SSD, mais qui n'est pas suffisamment rapide pour influencer autant le gameplay. Encore que, on a vu avec The Medium, il a deux mondes chargés en même temps où il les charge suffisamment vite pour passer de l'un à l'autre. Ça influence le game design. Bon, à voir. Ce qui est sûr, c'est que cette différence générationnelle avec la PS5, si elle sera bien présente, et on l'a vu par les graphismes qui sont convaincants, eh ben elle sera présente a priori autant que sur la Xbox Series S et Series X dans un premier temps. Donc là, le gap, on va dire, se referme un petit peu au lancement de la console. L'autre grosse annonce, enfin il y en a eu quelques-unes, mais l'autre grosse annonce que j'ai retenue, c'est le PS Plus Collection, qui vient s'ajouter à votre abonnement PS Plus, qui est une collection de jeux de la PlayStation 4 qui seront disponibles pour les abonnés PS Plus sur PlayStation 5 sans frais supplémentaires. Alors, de quel jeu il s'agit ? On en a une dizaine, douzaine. God of War, Final Fantasy XV, Uncharted 4, Monster Hunter World, Until Dawn, Days Gone, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Arkham Arcade Knight, j'ai pas réussi, The Last Guardian, Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne et Mortal Kombat 10. Alors, certains choix peut-être un petit peu discutable, mais ça fait une belle collection. C'est, alors, on peut, en faisant un rapprochement un peu hasardeux, dire c'est une sorte de mini Game Pass. En fait, pas vraiment, vraiment, parce que d'une part, c'est inclus à l'abonnement PS Plus, donc le coût de cet abonnement n'augmente pas. Sur le Game Pass, c'est un abonnement différent du Xbox Live, qui est encore là, hein, même si on pensait qu'il allait disparaître, peut-être qu'il disparaîtra à terme, mais pour le moment, il est encore là. Le Game Pass, c'est 10 euros par mois, le PS Plus, c'est 5 euros par mois, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait une petite collection de jeux auxquels jouer dès que vous achetez votre console. C'est des jeux de l'ancienne génération. Entre parenthèses, on n'a pas encore les précisions sur la manière dont les jeux ancienne génération tourneront mieux sur la nouvelle. On peut imaginer que ça sera une meilleure fréquence d'affichage et peut-être une meilleure résolution. Mais a priori, ça se limitera à ça. Sinon, je pense qu'ils en auraient parlé un peu plus. Et donc, ce n'est pas vraiment le Game Pass parce que c'est une collection, a priori, figé, qui vous donne de quoi jouer si vous avez raté des trucs de l'ancienne génération, incluse dans le PS Plus. C'est certainement bon à prendre, c'est un bonus assez cool. C'est pas vraiment un Game Pass, parce que le Game Pass, c'est la promesse de plein de jeux dès qu'ils sortent, un catalogue immense. On a quand même de quoi jouer dans le PS Plus collection, mais c'est pas le smorgasbord du Game Pass. C'est quand même sympa à voir, je pense. Trinity, t'allais dire un truc ?
Oui, justement, c'est pareil, c'est une façon pour moi de faire une transition un peu plus douce. Il y a des jeux, par exemple, certains jeux qui pourraient être un peu en ligne. Il y a par exemple une très grosse communauté sur Monster Hunter. Je pense à ce jeu-là parce qu'on l'a cité. Très grosse communauté de joueurs hardcore qui jouent qu'à ça. Donc aussi, permettre d'avoir ce jeu sur la prochaine console, ça permet aussi à un certain nombre de joueurs de se dire « Ok, je peux y aller aussi, il y a quand même ces jeux-là qui m'attendent. » Et effectivement, des gens qui n'auraient pas profité de certains jeux sur la PS4, ça leur permet d'en avoir et de les tester, et surtout de tester les gros titres de la PS5, enfin de la PS4. Mais du coup, oui, on n'est pas sur un énorme catalogue, mais c'est un bonus qui est rajouté, comme tu disais, et qui n'est pas payant. Donc, c'est toujours bon à prendre, même si ce n'est pas énorme quand même.
Ouais. Selon moi. Je l'ai dit.
Je vous trouve dur quand même, c'est une belle collection. Hein, et sans aucun frais, c'est une bonne motivation pour payer les 5 euros par mois ou 10 euros, je ne sais plus combien ça coûte, mais au PS Plus Collection. Et avoir aussi une belle tripotée de jeux intéressants et d'avoir l'occasion d'y jouer sur PS5 en attendant que le catalogue s'étoffe aussi.
Mais je pense que c'est exactement ça. C'est vraiment pour moi une question de motiver les joueurs à venir et à prendre l'abonnement. Et c'est pour ça qu'on a des jeux, on peut voir qu'on a quand même des gros titres. Des jeux solo, des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs. Voilà, on a quand même, on a quand même quelque chose.
Ça couvre plein de genres.
Voilà, ça couvre un petit peu tout. Et tu l'as très bien employé. Pour moi, c'est pour motiver les gens, quoi. Motiver les gens à prendre cet abonnement. Les abonnements qui, je trouve, prennent de plus en plus de place et qui sont quand même très intéressants. Hein, mais on le voit depuis quelques années. Les abonnements, ça devient quelque chose de hyper prépondérant au niveau des consoles.
Oui, ça c'est sûr. Et celui-là, oui, il devient très intéressant aussi. Ça sera intéressant de voir si la collection change. Je pense pas, j'ai pas l'impression que ça soit le but, mais peut-être qu'ils en rajouteront, peut-être même des jeux PS5. On pose la question dans la chatroom, je l'ai précisé, mais oui, c'est exclusif à la PS5. C'est-à-dire que les joueurs PS4 n'auront pas accès à tous ces jeux. Donc, en gros, il faut banquer. L'autre gros morceau, évidemment, c'était le prix de la console, le prix et la date de sortie. Alors, elle est à 499 € pour la version avec lecteur de Blu-ray et 399 pour la version sans lecteur. Sortie le 12 novembre pour les États-Unis et quelques autres pays, le Japon. En Europe, ça sera le 19 novembre, donc une petite semaine de décalage. Et Le truc qui m'avait marqué pour la Xbox Series S, c'est que évidemment la version numérique, ça vous permet d'acheter une console moins chère. Là, c'est le cas aussi. Mais si vous achetez des jeux physiques de temps en temps, au-delà des problèmes de connexion rapide qui est nécessaire, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, si vous achetez de temps en temps des jeux physiques, là, il n'y a que 100€ de différence avec la version qui a le lecteur de Blu-ray. Et donc, on va dire, si vous avez 10€ de moins par jeu et que vous les revendez ensuite, comme j'en parlais, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour parler de la série S et c'était un élément important. On en parlait la semaine dernière également dans l'émission. Mais si vous achetez des jeux de temps en temps, on va dire que si vous économisez entre le prix d'achat et peut-être une revente d'occasion 10 à 20€, peut-être même un peu plus, allez, en 5 jeux, vous avez rentabilisé la différence entre les deux consoles. Donc, c'est important à prendre en compte. À prendre en compte également. Et puis, puisqu'on parle du prix des jeux, il a été officialisé que le prix maximum des jeux sera de 80€ chez nous. 80€, évidemment, ça fait cher. On parlait du prix des jeux, et on ne va pas refaire tout le topo sur pourquoi ils sont chers, pourquoi ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas monté de prix, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne sont pas si chers que ça. Ils sont au même prix par rapport à l'époque et au pouvoir d'achat et à l'inflation, etc. On ne va pas refaire tout le topo. Le fait est que 80, si je suis bon en maths, c'est plus que 70, et donc ça fait un peu cher. Tous les jeux ne seront pas à 80, en tout cas au début, il y en a plein qui sont un peu moins chers, mais le prix maximum maintenant, c'est 80€. Donc cette question de doit-on pouvoir les acheter en physique pour les avoir un peu moins chers se pose d'autant plus. Réaction à tout ça, je vous laisse parler.
Moi, je sais que ma communauté a pas mal réagi parce que j'ai posé justement la question et en parlant, je parlais juste des sorties des jeux et directement les gens ont abordé ce sujet-là quoi. Ils m'ont directement dit ah ouais mais moi Demon's Souls, tu comprends, il est à 80€, donc je comprends que ça puisse bloquer certaines personnes. On verra si ça va devenir la norme. Mais c'est vrai que 80€, ça commence à faire hein, quand même. Ça commence à devenir un sacré budget pour acheter un jeu, ce qui pour moi va d'autant plus augmenter l'exigence des gens. Parce que n'oublions pas que dans le gaming, on est quand même très exigeant. Je trouve qu'on a une communauté de personnes qui sont très exigeantes sur les jeux. Et plus ce prix augmente, plus pour moi, l'exigence des gens augmente aussi en même temps. Ça m'arrive souvent quand je suis en live. Moi, je teste des jeux. Alors, bien et pas bien placé pour en parler parce que je ne paye pas mes jeux étant donné que je travaille avec les éditeurs, mais j'essaye toujours de me mettre à la place en fait comme je l'étais avant d'une cliente
du petit peuple.
Non, mais façon de. Non, mais voilà, parce que moi, j'ai quand même été très grosse consommatrice. J'achetais tous les collectors, tout ce que tu veux. Et j'essaye toujours de me mettre à la place des gens. Et c'est vrai que moi, parfois, je joue à un jeu, je vois plein de bons côtés, je le dis. Et j'ai remarqué qu'il y a souvent cette petite remarque de ah oui, mais là, il coûte 70€ quand même, tu vois. Oui. Donc, il y a quand même une espèce de corrélation pour les gens entre la qualité et le prix. Donc déjà ça. Après, c'est vrai que bon, 80€, c'est 10€ de plus. Après, il y a sans doute des raisons à ça. Des raisons ouais. à ça au niveau du prix. Et en ce qui concerne le prix de la console, moi personnellement, pareil, à l'heure actuelle, avec mon travail, je suis beaucoup en dématérialisé, mais je fais partie de ces gens qui aiment bien acheter quelque chose et l'avoir matériellement. Donc, je serais plus tentée, ne serait-ce que si, voilà, un jour, on m'envoie justement le jeu en CD ou si j'ai un film à regarder. Oui, j'achète encore des Blu-ray. Je ne veux pas que je regarde sur Netflix, j'ai des films en Blu-ray. Je pense que je serais beaucoup plus tentée par celle à 499. Comme ça, j'ai tout et je suis tranquille.
Ouais. Moi, j'ai précommandé celle à 499 aussi, même 529 ici en Finlande, parce que les choses sont plus chères. Mais j'ai pas acheté de jeu en physique depuis à peu près 3 ans. J'ai pas acheté de Blu-ray ou de DVD non plus depuis 10 ans. J'exagère à peine. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, au cas où, comme ça, j'aurai un lecteur.
C'est ça. Voilà, c'est ça.
Et je me dis.
On est en train de glisser vers le démat, hein, quand même, beaucoup.
Ah, enfin, carrément.
Ils sont en train, là pour moi, ça y est, c'est la génération où, allez, on a les deux et fort probable que la génération d'après, il n'y ait même plus quoi.
Ouais, mais ça pose un problème en termes de retail, parce que finalement, quel est l'intérêt pour des grandes enseignes de vendre une console des maths sur laquelle ils ne vont pas faire énormément de marge sans ensuite pouvoir vendre les jeux?
Bien
Alors
sûr.
oui, on peut toujours acheter des cartes avec 50 euros de bon d'achat sur le store, mais ce n'est pas la même chose et ça n'attirera pas autant les clients. Et donc, je pense qu'on va glisser vers le démat à un moment, mais je pense que cette transition va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un format qui convienne aussi au monde
et aux vendeurs, tu veux dire. Ouais.
Ouais, bien sûr, oui.
C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour toutes ces questions. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore hésiter à prendre une version des maths encore maintenant, mais c'est vrai qu'on commence à glisser et on a parlé de la question de la connexion, bien sûr, c'était forcément un sujet. Pour conclure, il y a j'ai l'impression que j'oublie de dire quelque chose. Je suis sûr qu'après l'enregistrement, j'y repenserai, je me dirai « Mais merde, il fallait que je dise ça !» C'était hyper important. D'autres petits sujets, il y a eu une interview de Jim Ryan, le président de PlayStation, qui était au Washington Post, je crois, qui a dit que au niveau de la rétrocompatibilité, on aurait 99% des jeux qui seront rétrocompatibles. Ils ont démenti les problèmes de rendement des processeurs, de fabrication des processeurs, dont on avait entendu parler des rumeurs qui laisseraient entendre qu'il y aurait moins de consoles disponible au lancement et jusqu'à la fin de l'année que prévu. Il a démenti, donc a priori, il ne devrait pas trop y avoir de problème pour se fournir la console à ce moment-là. À la sortie, je pense que ça ira. Attendez pas Noël quand même. Hein. Je me demande si ça va, pour la PlayStation comme pour la Xbox, je me demande si ça ne va pas être un petit peu plus compliqué vers la fin de l'année. Je me souviens ce que j'allais dire. La PlayStation, si j'achète la version avec disque, ça me facilite l'achat d'une Xbox Series S à terme. Parce que du coup, j'ai pas besoin d'avoir le disque sur les deux. Donc, mais en même temps, elle est moins puissante. Alors que, bon, bref, on verra. évidemment, on l'a pas précisé, mais la grosse différence avec la PlayStation digitale par rapport à la Xbox digitale, la Xbox numérique, c'est que la PlayStation, elle a exactement les mêmes propriétés techniques que sa grande sœur avec lecteur de disque. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de disque. Alors que sur Xbox, la S est beaucoup plus puissante que la S, en plus de la question du disque. En contrepartie,
mais l'écart de prix est significatif aussi.
Oui, c'est ça.
Euros, c'est très sérieux. Ouais.
Comme je le disais, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour parler de la série S. Et la série S est pour moi un très très bon deal. Donc... à 300 euros, la vraie next-gen, alors il faudra voir comment elle tourne vraiment, mais la vraie next-gen à 300 euros, c'est un petit peu du jamais vu. Et au niveau des prix, on se retrouve avec une next-gen qui va de 300 à 500 euros. 500 euros, c'est pas le plus gros prix qu'on ait vu pour de la next-gen. Et même pour les jeux, on dit 80 euros, c'est vrai, certains seront à 80 euros, mais comme on le disait parfois, par le passé, et comme l'a rappelé Trinity, il y a des jeux qui sont moins chers, il y a des offres avec les abonnements qui réduisent le prix des jeux, il y a des soldes tout le temps, il y a des jeux gratuits, il y en a des tonnes. Donc, c'est pas aussi simple que « Ah, maintenant, tous les jeux sont à 80 euros ». Bien sûr, ceux que tout le monde voudront, ils seront à 80 euros. Donc, c'est pas non plus... et pour conclure, sur la PlayStation 5, le line-up de lancement, quels jeux seront disponibles pour PlayStation 5 c'est pas si énorme que ça, hein, au lancement et dans les semaines qui suivent. Astro's Playroom, qui sera installé sur la console, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops, Cold War, Demon's Souls, Devil May Cry 5, Special Edition, Destiny 2 sera optimisé pour PlayStation 5, Destruction All Stars, Dirt 5, Fortnite, Marvel Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Watch Dogs qui sortira plus tard. Les exclus, c'est Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All Stars, Miles Morales et Sackboy. Donc, au final, parce que Kena Bridge of Spirits a été repoussé pour ceux qui ne le savaient pas, franchement, ça fait pas beaucoup d'exclus. Ouais. C'est léger, hein.
C'est un peu léger, surtout que quand même, quand tu prends l'ancienne génération, PlayStation, ils ont tapé très fort avec toutes leurs exclus. Moi, je trouve que justement, ils avaient un peu le dessus par rapport à ça. Ils avaient des exclus très puissantes. C'est vrai que là, c'est un peu léger. Après, moi, je prends toujours un petit peu des gants parce que je me dis, c'est la sortie. C'est le début et je pense que voilà, dans les mois qui vont suivre, il y aura bien évidemment des choses qui vont arriver, mais Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un petit peu plus, surtout de la part de Sony.
Oui.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, en fait, parce que je me souviens du lancement de la PS4, où finalement, on les exclut. Enfin, il n'y avait rien. Hein. J'avais le jeu, je ne me souviens plus comment c'était, c'était un FPS Killzone. Et j'avais eu Killzone avec la console, et puis il n'y avait rien pendant des mois et des mois et des mois. Alors, pour une console qui sort en fin d'année comme ça, à peu près au même moment de mémoire que la PS4...
Il y avait un petit jeu d'arcade.
Un petit jeu d'arcade sympa. Exactement, qui était très chouette, mais finalement, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, pour le lancement de la PS5, je trouve au contraire qu'ils s'en sortent pas mal et que, bah, au moins, il y a de quoi tenir jusqu'à la deuxième moitié de l'année prochaine, où j'imagine que là, il y aura des gros lancements.
C'est ça.
Ouais, je crois que Demon's Souls, c'est le gros morceau. Et puis surtout, j'ai l'impression que si, il faudra voir ce que ça donne vraiment, mais les graphismes avec le ray tracing risquent de faire un petit peu plus la bascule que sur la génération précédente, puis ça s'améliorera au fil des années, mais encore une fois, le grand spectacle qu'on a vu dans cette présentation, bah, ça donne envie. Et le truc, c'est que ça donne envie, autant, là encore, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le cas, ça donne envie pour la plupart des trucs, autant sur PlayStation que sur Xbox, parce que les deux seront à peu près équivalentes à ce niveau-là. Ça n'est qu'ensuite, avec les exclus et peut-être les capacités spécifiques de la PlayStation 5 avec méga SSD, ou peut-être la 3D audio spatialisée qui va nous, qui va nous blower notre mind, j'y crois pas trop, mais peut-être, bah que la différence se fera. Mais pour le moment, ouais, on n'est pas vraiment dans cette configuration. Bon, écoutez, on a fait un gros morceau sur la PlayStation 5 qui le méritait, je pense. On va. Vous avez une chose à conclure sur la PlayStation avant qu'on parle de Oculus un peu plus rapidement ?
Non, pas spécifiquement.
C'est pas obligé, hein.
On a beau dire avoir dit tout ce qu'on a dit, moi je suis quand même très très hypée, comme on dit, par la nouvelle génération. En fait, on décortique toujours un peu, mais c'est toujours quand même une grande excitation que d'avoir une nouvelle génération de consoles, des nouveaux jeux, des nouveaux graphismes, on va dire, qui arrivent. Donc je suis quand même hyper impatiente et je vais précommander mes deux consoles comme une grande pour pouvoir jouer à tout ça malgré tous les petits points qu'on peut soulever parfois. Il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner parce qu'on est quand même sur une belle génération, comme la génération qu'on vient de passer là, on arrive sur une génération encore meilleure, donc hyper impatiente.
Ouais. Moi, ce qui me... J'hésite à prendre la Xbox et je crois qu'un élément de réflexion qui est hyper important, c'est que le prix des consoles, je crois, est déjà assez écrasé. Et donc, le prix ne va pas baisser, peut-être que Dany faisait la remarque tout à l'heure, le prix ne va pas baisser, on va dire, avant minimum 18 mois. Donc, la manière dont je pense aux choses et la manière dont j'ai décidé de prendre ma Switch au moment où je l'ai prise, c'est ça ne va pas baisser d'ici 18 mois. Donc, au minimum, peut-être même 24 pour la Noël dans 2 ans. Et du coup, si vous pensez que vous voudrez la prendre dans les 2 ans, et que vous avez le budget pour la prendre tout de suite, bah autant la prendre tout de suite et avoir le plaisir de la voir pendant ces 2 ans, quoi. C'est pas la peine d'attendre pour la payer le même prix dans 18 mois ou dans 12 mois. Donc, bon.
Alors attention, parce que tu peux avoir aussi la PS5 skinée God of War quand il sortira. Donc ça peut valoir le coup d'attendre pour des gros fans de certains jeux.
C'est le piège. Ouais, mais après, tu te retrouves avec 4-5 consoles. Non, mais je connais, hein, moi, les Xbox. Je les ai, c'est bon, à l'époque, les Xbox Gears of War et tout, je me suis retrouvée avec 4 Xbox 360. Enfin, c'était n'importe quoi. Oui, effectivement, les gros fans peuvent attendre. Hein.
Bah, du coup, si tu vas en acheter 4, une de plus, une de moins, autant acheter la.
À la fin, t'es ruiné, tu peux plus acheter de jeu, tu vois.
Il faut attendre pour la Switch Pro l'année prochaine aussi, hein. Faut garder un budget quand même.
Ça fait beaucoup de budget, mais c'est ça aussi, ça sort forcément, les consoles sortent toujours en même temps.
Bah oui.
Et du coup, tu te retrouves quand à part, tu as parfois la team Xbox, la team PS, et du coup, ils savent exactement ce qu'ils vont prendre et voilà, ils vont pas choisir. Mais quand tu dois choisir entre les deux, tu te retrouves avec, on va dire, entre 800 et 1000 euros à dépenser si tu veux les deux, tu réfléchis, quoi. Tu réfléchis à deux fois.
C'est sûr. Bon, bah écoutez, très belle, très beau résumé de tout ça sur la PlayStation 5. On va parler d'Oculus Connect et d'Ubisoft Forward. Avant ça, un petit moment pour vous dire que l'émission existe grâce aux gens qui la soutiennent. Et les gens qui la soutiennent, c'est vous, les auditeurs qui appréciez ce qu'on fait et qui décident que tout ce travail qui est acharné et assidu vaut bien un petit soutien du prix d'un café, d'un croissant, oserais-je dire d'un pain au chocolat, pour ne pas offenser, pain au chocolat ou d'une chocolatine. Les deux, qui sont bien sûr des choses très différentes, peuvent convenir. Et si vous appréciez l'émission, peut-être que ça vaut le coup effectivement de se dire « Je vais aller soutenir ce créateur de contenu que j'apprécie ». Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Et en plus du plaisir, de la satisfaction, de la fierté de soutenir l'émission et de récompenser un travail acharné, vous avez également plein de petits bonus. L'émission sans pub, par exemple, sans pub et sans cette partie promo au milieu. Vous avez la newsletter étendue, une newsletter d'ailleurs, je vous prépare une newsletter super cool cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également, le lien est aussi dans les notes de l'émission, mais vous avez une newsletter étendue. Vous avez également, pour ceux qui soutiennent à un certain niveau, accès au Discord étendu, enfin... Tout plein de petits bonus sympathiques, mais bien sûr, le bonus essentiel, c'est de vous dire que vous êtes quelqu'un de beau et d'intelligent. C'est une validation totale quand vous soutenez l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et je vous remercie par avance de le faire, ou au moins d'y penser, de vous dire que c'est peut-être quelque chose à faire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bon. On va maintenant parler un petit peu plus rapidement quand même de l'Oculus Connect et de l'Ubisoft Ubi Forward. Alors, le Oculus Connect, il n'y avait pas énormément de choses, donc je vais résumer ça rapidement. En gros, l'Oculus Quest 2, qui est moins cher, à environ 300 euros, un peu plus léger, un petit peu plus petit, meilleure résolution, 90 Hz de rafraîchissement de l'écran, et qui sort le 13 octobre. En gros, c'est vraiment Oculus Quest 1, mais mieux à tout point de vue, même si ça ne change pas énormément de choses. Par contre, les Rift et Rift S, donc les versions qui sont connectables à votre ordinateur, disparaissent. Et le seul modèle qui reste, c'est l'Oculus Quest 2 autonome, qui peut aussi être connecté à l'ordinateur avec un simple câble USB-C. Je l'ai testé, ça marche très bien. La fonctionnalité sort de bêta là, en octobre, avec la sortie du Quest 2. C'est intéressant de voir que c'est dans cette direction que se dirigent Mark Zuckerberg et Facebook. Entre parenthèses, il vous faut un compte Facebook maintenant pour utiliser l'Oculus. Vous pouvez vous créer un compte bidon, hein, mais il en faut un quand même. Le truc à noter pour moi, c'est que j'ai oublié ce qui était à noter, donc ça n'a certainement pas d'importance. Ah oui, si, il est quand même plus lourd et un petit peu plus bulky, un petit peu plus encombrant que l'Oculus Rift. Donc, moi, je serai content quand ils en auront un qui sera aussi petit que le Rift, quand ça sera le seul. Mais en même temps, moi, j'ai un Quest et pas un Rift. Donc, je comprends que ça a des avantages et des intérêts aussi. Et entre parenthèses, il y a aussi des jeux qui ont été annoncés. On a Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Population One, qui est un Battle Royale en VR, donc le multiplayer pour Beat Saber, The Climb 2, un truc où il faut escalader, et aussi une mention qu'il y aura Assassin's Creed et Splinter Cell en réalité virtuelle sur Oculus en exclu, mais ça, on n'a même pas vu d'image. Bon, je vous pose la question. La VR, je crois qu'elle peine toujours un petit peu à convaincre, mais elle avance. Enfin, elle en convainc certains qui sont très, très à fond dessus. Mais elle continue à avancer. C'est pas un flop. C'est juste que ça avance peut-être un peu plus lentement qu'on l'aurait souhaité.
Moi, personnellement, au niveau de la VR, donc j'ai pu la tester, mais j'avais pas testé. J'ai testé une ou deux fois l'Oculus. J'en ai pas chez moi. Et j'avais testé à l'époque aussi celle de PlayStation. Je pense pas que je suis vraiment la cible à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai quand même tendance à faire des très grosses sessions de jeu. Et c'est vrai que bon, j'avais le petit problème de mal de tête, etc. Mmh. Mais par contre, je trouve que c'est, la fois où je l'ai fait, je trouve que c'est une expérience quand même assez folle, surtout les premières fois où on le met, quoi. Où vraiment, on a l'impression d'être dans notre jeu, et pourtant, j'avais joué, mais sur Resident Evil, donc c'était pas du tout le plus... C'était pas encore abouti, hein, c'était plutôt, on va dire, les débuts, entre guillemets. Mais c'est une super expérience. Moi, je l'aime bien, c'est plus... récréatif, si on peut dire ça comme ça, vu que je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo, mais c'est plus récréatif pour moi au niveau de tout ce qui concerne la VR. Mais je suis quand même un minimum ce qui se passe dessus, parce que je pense qu'effectivement ça avance doucement, mais qu'on va avoir des super choses qui vont arriver à terme, mais effectivement, c'est pas ce qui touche le plus gros public, en fait.
Moi, de mon expérience de Quest 1, je crois qu'un Quest à 299€, c'est un bon deal. Je suis en train de voir dans la chatroom que certains disent Ars Technica a l'air, enfin Discadic dit que Ars Technica a l'air de déconseiller l'achat du nouveau Quest. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées, mais pour 300€, un meilleur Quest, je suis déjà très content du Quest 1. Si vous êtes curieux de voir ce que donne la réalité virtuelle, avec la possibilité de le connecter au PC et donc d'avoir les expériences PC vraiment avec des excellents graphismes, et ça marche très bien, enfin avec le Quest en tout cas, moi je pense que c'est un bon deal, mais il faut encore, faut-il être intéressé par la réalité virtuelle, je crois que...
Tu vois, là, tu viens de dire le prix, je suis hyper surprise, moi, les prix, moi c'était les prix à l'époque quand ça venait de sortir, donc c'était des prix de dingue, tu vois, j'aurais pas pensé qu'on puisse avoir quelque chose à 300€ à l'heure actuelle, tu vois.
Ouais, avec une résolution qui est vraiment pas mal du tout. On est presque en 4K pour l'écran entier, si je ne me trompe pas. Franchement, et le truc qui fonctionne, et la possibilité de l'avoir en autonome ou en connecté au PC, c'est le meilleur de tous les mondes. Alors oui, il est un petit peu plus gros, mais un petit peu plus gros qu'un casque exclusivement PC, je suis d'accord. Mais moi, je l'ai utilisé, on va dire, une heure et demie sans problème. Et celui-là, il est un poil plus léger. Donc,
bon. Et en tout, tu t'en es servi combien de temps à peu près depuis que tu as ton Oculus Quest ?
Alors ça, c'est le problème. Franchement,
ouais, c'est le prix d'une Xbox, finalement. Hein, donc, il faut choisir.
C'est pour ça que je dis, il faut être intéressé par la VR, par la réalité virtuelle. Moi, je l'ai depuis, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Je l'ai utilisé 5 fois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ensuite vous en faites ce que vous voulez.
En termes de contenu, je pense qu'on n'est toujours pas arrivé au niveau qu'on nous promettait, comme cette révolution du gaming il y a quelques années. Ça viendra peut-être un jour, hein, mais on en est encore loin, je pense.
Je suis assez d'accord. Ubisoft Forward. Alors, en introduction, on va quand même mentionner le fait que, encore une fois, ils ont esquivé les controverses des problèmes qu'ils ont en interne dans leur communication officielle. Il y a eu un message de Yves Guillemot qui a été présenté sur les réseaux sociaux, mais très loin de la conférence en live en elle-même. On ne va pas faire 2 heures dessus, on a déjà exprimé notre déception sur ce sujet il y a quelques mois pour le précédent, enfin quelques semaines pour le précédent Ubisoft Forward, on en avait parlé très longuement. Si vous voulez ajouter quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas, mais c'est un petit peu la même chose, et vu que c'est la deuxième fois, moi ça m'a... Bon, il y a quand même un message d'Yves Guillemot, mais ils ne l'ont pas mis dans le live, ils auraient pu faire un mini effort. Bon, voilà, c'est aussi décevant que la fois précédente. Comme je disais, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas quand je vous donne la parole. Mais les jeux Gods and Monsters s'appellent aujourd'hui Immortals Phoenix Rising. Il semblerait que ça soit en raison d'une d'un conflit avec Monsters Energy Drink. Ça me paraît bizarre, c'est vraiment pas les mêmes produits, mais bon, peut-être. Il sort le 3 décembre, et en gros, c'est Zelda Breath of the Wild à la sauce Ubisoft, avec un peu plus de combat, mais vraiment le même esprit, le même graphisme, les mêmes tout, quoi. Même l'organisation du monde, enfin, c'est impressionnant. Prince of Persia Remake, qui sort en 2021. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le voulaient, mais en tout cas, il sera là. Riders Republic, une sorte de Steep 2 qui ne s'appelle pas Steep 2, qui a l'air ouais, extreme, on est des anarchistes, tout est trop cool, qui est genre. C'est vrai. C'est, mais non, mais voilà, mais toi, t'es une jeune avec des piercings et des tatouages.
Ouais, j'ai des tatouages et tout. Mais moi, quand j'ai vu la cinématique, j'étais là, oh, ça a l'air trop cool.
Bah écoute, peut-être qu'il sera sympa. Hein. 50 joueurs, c'est une sorte de battle royale de la course de descente avec tous les sports extrêmes, ski, vélo, parapente, enfin tout. Ouais, ça peut être marrant.
Mais je trouve, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, surtout, ce qui me parle, c'est pas tant le côté destroy du truc, mais c'est que tout ce qui est sport extrême, c'est pas quelque chose qui est hyper représenté. C'est pas des jeux qu'on voit hyper souvent. Effectivement, il y avait eu ce type à l'époque. Moi, j'aime bien de temps en temps aller sur des jeux comme ça. C'est pas des jeux sur lesquels je vais passer 10 heures, mais j'aime bien, tu vois, y aller une ou deux heures, me taper mon petit délire en snow, tout ça. J'aime bien parce qu'on le voit pas souvent. Et là, bon, ils ont rajouté un côté un peu trash qui, moi, me dérange pas personnellement.
D'accord. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça se trouve, il sera très sympa. Ce type avait des qualités,
on fera des
d'ailleurs.
Parties.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça peut être un super bon party game, hein. Tu sais, c'est les Fall Guys, les Among Us qui a beaucoup de succès en ce moment en stream, enfin ces choses-là, ça a une valeur aussi. C'est des party games sympas, quoi. Oui. Ouais, Dani, il y a un truc qui t'a plus parlé dans cette présentation ?
Écoute,
on sent l'enthousiasme légendaire de Dani.
Gods and Monsters qui a été donc renamed Immortals. Bon, écoute, peut-être. Prince of Persia, j'ai un peu des. Je suis un peu, disons, un peu modéré. Parce que il faudra voir quelle est la qualité, la valeur ajoutée qu'ils vont mettre dans le remake. Je suis un peu dubitatif
si
pour l'instant.
Justement, si tu as vu des vidéos.
Ouais.
Alors, c'est joli.
Mais c'est ça, sans plus. Ouais.
Mais je me disais, ah, tu vois, pour moi, j'étais là, je m'attendais un petit peu plus quand même pour le remake.
Ça m'a fait un peu. Disons que je l'avais pas trouvé énormément différent de mes souvenirs de l'original.
Mais ça n'avait pas. C'est la marque d'un bon remake. Tu te dis, ah bah c'était comme ça l'original. Et puis tu vas voir l'original et tu te dis, ah ouais, ok.
Ouais, c'est ignoble, ouais, c'est ça.
Et bon, ils refont les cinématiques.
Comme mes souvenirs de Final Fantasy VII il n'y a pas si longtemps.
Exactement.
Ça te fait bizarre. Hein.
Ils refont les graphismes, ils refont les cinématiques, ils réenregistrent les voix avec la voix du prince de l'époque. Bon, c'est. Ouais, bon. C'était un jeu.
Ça va parler aux fans. Le jeu est quand même a l'air plus que correct et il y a quand même une grosse fanbase et surtout sur celui-ci. Donc voilà, forcément on s'y attendait pas vraiment, mais bon, moi j'aime bien les remakes personnellement, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui crachent beaucoup sur les remakes, comme quoi c'est du contenu facile, etc. Moi ça me fait plaisir de revivre des moments que j'ai vécu il y a 20 ans sur un jeu et de le revivre avec un gameplay qui fait pas mal à la tête, tu vois, et des graphismes pareil où t'es pas obligé de mettre des lunettes pour comprendre ce qui se passe, donc je pense que ça va quand même bien plaire aux fans.
Ouais, et puis c'était un jeu qui était un peu fondateur quand même dans plein de choses, le parcours, le retour en arrière pour qu'il n'y ait pas de fail state dans les jeux, c'était assez nouveau, aujourd'hui on en a beaucoup plus. Enfin, bon, il y a des choses intéressantes, effectivement, moi, pour être honnête, je ne suis même pas sûr que ça que je le prenne, quoi. C'est vraiment. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais défendre un tout petit peu Immortals Phoenix Rising parce que il a l'air. Alors évidemment, c'est difficile de parler de Zelda Breath of the Wild et de comment dire, de comparer sans avoir une révérence presque sacralisée à Zelda et donc dire vous essayez de copier, c'est forcément mauvais. Mais le jeu a l'air d'être plutôt sympa au niveau du combat, au niveau du. En gros, pour résumer, un Breath of the Wild dispose sur d'autres consoles que celles que Nintendo, qui sont un petit peu plus orientées action avec des armes qui ne se cassent pas. Alors ça cassera peut-être un petit peu la magie du jeu, mais pourquoi pas ? Moi, je pense que ça pourrait être un truc assez cool. Ça sort le 3 décembre, si je ne m'abuse. Ça pourrait être cool, ça pourrait être pourri aussi, hein, mais ça pourrait être sympa. Et vraiment, tout le monde n'a pas de Switch, donc pourquoi pas ?
Ouais, non, non, je suis d'accord. Je suis
totalement d'accord. Hein. Et je vais en faire aller plus d'un, mais moi, Breath of the Wild m'a laissé de marbre. Donc, j'ai des attentes un peu plus élevées concernant Immortals. Oula.
On va pas repartir dans ce débat parce que là, on n'en a pas fini. Il y a la moitié de la chatroom qui est en train de.
Ils vont me lyncher, je crois.
Ouais, c'est ça. Où il habite ? Bon. Donc voilà pour Ubisoft et son Ubi Forward. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose de plus d'important à mentionner. On va peut-être parler des jeux auxquels on a joué en ce moment ces derniers temps, si vous en avez certains que vous avez testés. Je ne sais pas si vous avez acheté Super Mario 3D All-Stars. Personnellement, moi, j'ai dit non pour le moment, mais je me laisserai peut-être tenter.
J'ai hésité, mais j'ai commencé à lire les reviews qui disent qu'en fait, c'est une émulation des jeux d'origine. Hein. Ouais, un peu cheap, donc... bon.
Non, ouais, du coup, j'ai pas pris non
c'est
plus.
C'est pareil. J'ai bien fait d'attendre.
Je comprends. Dans 6 mois, il sera plus disponible. Hein. Tu te rends compte ?
Oh mon Dieu.
Ouais. Donc il faut.
Bon, catastrophe.
On verra. Moi, j'ai relancé Destiny. Il y a une nouvelle quête. Pardon, tu voulais dire. Toi, tu as joué Trinity ?
Non, moi, j'ai pas joué justement. Okay. Ce que je disais, moi, je suis pas très. Attention, d'autres cailloux qui vont m'arriver. Je suis pas Mario.
Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, les gars. Pas Zelda, pas Mario. Bon.
Non, mais alors, l'ancien, si, mais là, tu vois, je suis pas non plus accro.
Ouais, ouais, pour dire, je comprends.
Qui sort, je le prends direct plus tard. Voilà, quand j'ai le temps et l'envie.
Ouais, je suis un petit peu dans le même délire. J'ai jamais fait Sunshine, donc ça serait peut-être l'occasion. Et j'ai Galaxy, j'y ai joué juste un petit peu. Je les ai sur ma Wii U, enfin au moins Galaxy. C'est quand même couillon, il faudrait que je la rebranche, mais c'est bien plus simple de payer 60 euros, de donner 60 euros de plus à Nintendo quand même. Ça les aide un peu. C'est comme quand vous me soutenez sur Patreon. Moi, je soutiens Nintendo en achetant leurs jeux. Voilà, c'est
ma bonté. Ils sont, je pense, dans leur grande majorité, exceptionnels tous, hein.
Les jeux de
Super Mario, Nintendo, c'est quand même...
Ah oui, non, bien sûr.
Ah oui.
On est d'accord. Oui, non, mais ça...
Au niveau qualité, je pense que c'est vraiment un des meilleurs, une des meilleures marques existantes.
Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Donc moi, j'ai joué un petit peu à Destiny 2. Je me suis replongé dedans. Il y a une nouvelle quête. C'est toujours sympa. Hein. Bon, c'est toujours Destiny, mais j'attends l'extension en novembre avec les nouvelles consoles. Entre parenthèses, Destiny 2 inclus au Game Pass. Donc peut-être que pour le coup, j'ai plus besoin d'acheter les trucs Destiny 2. Je vais l'installer sur mon PC. Ça sera plus simple. J'ai aussi testé Spellbreak très, très succinctement. Mais c'est un jeu qui est un petit peu passé à l'as, qui est en fait un Battle Royale où on joue des mages, des jeteurs de sorts, qui a des graphismes encore un petit peu à la Zelda Breath of the Wild, un petit peu, mais qui est franchement que je trouve assez sympa. J'ai fait le tutoriel et une partie. Je me suis assez vite rendu compte, je me disais, oh, mais je me débrouille pas mal là. Évidemment, c'était une partie contre des bots. Donc, j'ai gagné la partie. J'étais très fier de moi. Dites pas trop que c'est des bots. Mais ça peut être sympa. Le truc, c'est que quand on est lâché sur la carte, on met un moment avant de rencontrer du monde. J'ai trouvé ça un peu vide pendant un bon moment.
La carte est grande, c'est
ouais.
ça?
Ouais, la carte est grande. Il y a, ou alors je suis tombé à l'endroit où les bots étaient pas allés, je sais pas. Ouais. Mais c'est franchement, le système est sympa. On a donc des gantelets pour les types de sorts. On a feu, glace, éclair, poison, etc. Et chaque gantelet donne une attaque directe et une attaque un petit peu plus forte qui est sur cooldown. Et on peut avoir un gantelet sur chaque main. Et donc on peut combiner les trucs. Si on met du poison quelque part et qu'on balance du feu dessus, ça fait une explosion, il y a plein de trucs comme ça d'interaction. C'est vraiment original, vraiment sympa à jouer, je trouve, à voir sur l'un peu plus long terme. Mais je crois qu'il va être lui encore perdu dans la forêt des Battle Royale, quoi.
Voilà, c'est un Battle Royale. Moi, je suis un peu en saturation en fait. C'est-à-dire que ouais, effectivement, il y a des bons Battle Royale qui sortent au mieux, mais c'est comme ça. Il y a un truc qui marche forcément. On y va, mais moi, du coup, j'ai plus envie d'aller vers les Battle Royale maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau Battle Royale, je me dis, oh, Et tu vois, j'ai presque plus le motif d'aller tester les Battle Royale parce que... alors que j'adorais ça à la base. Hein. Moi, j'ai joué à PUBG à l'époque. Il était en bêta ou quoi. Et j'étais tombée amoureuse. Mais c'est vrai que là, bon... C'est, en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ils arrivent à faire un truc qui cartonne et c'est banco, quoi. Mais combien il y a de Battle Royale là qui passent, qui font un mois et qui ensuite...
Qui disparaissent.
C'est ça.
Écoute, franchement, si t'as une journée en stream où tu sais pas trop quoi faire, je crois qu'un petit test de Spellbreak pendant une heure, ça pourrait être... Moi, je me dis, il est suffisamment différent avec ses histoires de sorts pour avoir son truc. Mais bon, en même temps, je suis réaliste, je crois pas qu'il va aller où que ce soit. Et puis, il y a Spelunky 2 qui est sorti, il y a Among Us, comme je le disais, qui a beaucoup de hype en ce moment. C'est une sorte de, alors, pour résumer, c'est une sorte de WarioWare où on a plein de petits puzzles à faire, sauf qu'on joue à 10, et il y a un ou deux, entre 5 et 10, et il y a un ou deux saboteurs. Et il faut savoir lesquels c'est. Il y a des moments où il ne faut pas parler pour ne pas révéler qui c'est, etc. C'est un jeu marrant qui a beaucoup de succès en stream. En ce moment, mais ouais, je sais pas, vous avez joué à quoi alors tous les deux?
Alors, je sais pas si tu veux parler en premier, Dani. Moi, je suis retournée sur des vieux jeux, vu que pas des vieux jeux. Je suis retournée sur des jeux, vu qu'il n'y a pas énormément de sorties en ce moment, là, ça va arriver doucement. Personnellement, en ce moment, je rejoue à Ancestors. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est le jeu. Alors, c'est un jeu qui a été fait à la base par le créateur des premiers Assassin's Creed. Ça s'appelle Ancestors Humankind's Odyssey. Et c'est un jeu qui va être décomposé en trois opus où on retrace l'histoire de l'humanité. Donc, le premier, on joue tout simplement des singes et on est face à un gameplay assez difficile où on te guide absolument pas et tu vas devoir de toi-même apprendre à fabriquer des trucs, à développer ta motricité, tout cela dans un open world, dans la jungle avec des biomes qui évoluent très Assassin's Creed, on le ressent dans les mouvements, tout ça. C'est un excellent jeu et à l'époque, je ne l'avais pas fini parce qu'il y avait, il méritait quand même certaines mages, il y avait notamment un tigre à dents de sabre qui me rendait folle dedans et du coup j'avais arrêté. Et là ils ont fait pas mal de mages et du coup j'y suis retournée dessus. Et sincèrement, si vous connaissez pas dans la communauté, je vous le conseille. Il va vous faire un peu chauffer le cerveau au début quand on commence, mais c'est un très beau jeu avec un super gameplay et ça change quoi. Vraiment, ça change de ce qu'on a de voir. Donc là, je suis retournée là-dessus et je me régale. Je mange des noix de coco, je m'accroche aux arbres et je suis des tigres à dents de sabre. Voilà. C'est ce que je fais en ce moment.
Ça a l'air sympa. Ouais, c'est cool que tu en reparles parce que c'est vrai qu'il n'était pas passé inaperçu, mais enfin, les reviews étaient un petit peu tièdes au moment de la sortie et le concept est tellement original. Tu dis, ça change, c'est différent. C'est vrai que ça vaut le coup de s'y intéresser s'il vaut le coup. Donc.
Il y avait un côté niche en fait. Tu vois, il y avait presque un côté niche quand il était sorti. Les gens l'avaient streamé pendant 2-3 semaines sur Twitch et ensuite un peu oublié, alors que vraiment, moi je le trouve très très bon et il y a beaucoup d'heures de jeu en plus dessus.
Super. Dany, toi, tu as joué à des trucs notables?
Alors déjà, mea culpa, hein, mais je suis retombé d'en haut, donc...
T'es pas le seul, je crois.
Donc déjà, mon temps de jeu, c'est considérablement... Enfin, mon temps de jeu hors WoW, c'est considérablement réduit. Maintenant, pendant les mises à jour serveur et les lancements de patch, j'ai terminé Persona 5 Royal. Enfin, je l'ai platiné, donc c'est assez rare que je platine un jeu.
Platiné, carrément, d'accord.
Ouais, ouais.
T'avais fait le normal Persona. Ou t'as...
J'avais fait le normal, ouais. Donc,
et donc, t'as refait le Royal, d'accord.
C'était un peu rude parce qu'une grande partie du jeu est extrêmement dans la continuité. Ça n'a quasiment rien changé. Et il y a juste quelques jours de plus qui apportent une perspective un peu différente au jeu. Donc, c'était assez sympa. Mais se retaper, beaucoup d'heures pour en arriver là, c'est un peu... dommage, ça aurait été bien de pouvoir récupérer une sauvegarde par exemple, un truc comme ça. Et là, je suis en train de jouer à Final Fantasy VII Remake que j'essaye de terminer, donc je vais être, aux trois quarts du jeu, peut-être un peu plus loin. Et une fois que je l'aurai terminé, je vais me remettre à Last of Us 2 sur lequel j'ai pas trop accroché.
Oh. Ah d'accord. Ouais, je
Dany. Un poignard en plein cœur.
Ah non, mais moi aussi.
Alors
moi,
j'ai du mal à accrocher au personnage. sur lesquels j'accroche pas trop. Le gameplay, bon, il a pas trop changé. Et je trouve que le fait qu'ils aient beaucoup déstructuré l'histoire, en fait, ça, enfin, j'ai peut-être joué 10-12 heures dessus. Ça, ouais. Ça a un peu limité mon intérêt. Alors, on m'a dit, ouais, mais attends, si tu fais ça, tu joues encore 2 heures et après t'es là. Donc, je vais y continuer. Mais les 10 premières heures sont un peu pénibles.
Si c'est pas ton truc, les 10 premières heures, je doute que tout à coup ça change les choses. Mais ouais. Moi, je crois qu'il va pas vraiment te plaire, mais bon, on verra, tu nous diras quand tu auras avancé un petit peu.
Et c'était dommage parce que j'étais en attente d'un bon Survival Horror en attendant le prochain Resident Evil, donc je me suis dit, bon bah super, je vais y jouer, on va voir ce que ça donne, etc. Mais
je trouve qu'il est beaucoup plus émotionnel. Celui-ci,
ah bah c'est sûr, oui. Il y a un scénario déjà qui n'est pas écrit sur un bout de papier.
Exactement. Donc il est beaucoup plus émotionnel, alors que le premier mettait poser les bases, on voyait comment l'épidémie arrivait. Donc je peux comprendre effectivement que ça te plaît.
Et tu vois, les 15 premières minutes, le tout début du premier, en fait, étaient tellement fortes et poignantes que ça t'implique directement dans le jeu. Quel que soit l'opinion qu'on en ait à la fin, c'est les 15 premières minutes et oh mon Dieu, mais c'est terrible, qu'est-ce qui va se passer? Alors que là, voilà, et il y a de la violence gratuite, un peu, enfin, très très grande et gratuite, je trouve, qui était un peu extrême. J'aurais pas forcément été contre la région un peu.
Je vous invite à aller écouter le spécial qu'on a fait sur The Last of Us 2, où on spoile tout. Il est sorti il y a quelques
donc dans 10 heures, j'irai l'écouter.
Voilà, exactement. Et je crois que... Bon, je vous invite à aller l'écouter. Je veux dire un mot sur le trailer qu'on a vu de... Le nouveau petit trailer qu'on a vu de Star Wars Squadrons. Où on vit un passage avec un... Où on est dans un TIE Fighter... Et c'est marrant parce que, vraiment, j'ai aucune affinité avec ce jeu. Un jeu de combat spatial, bon, Star Wars, j'aime bien, mais c'est un petit peu comme Breath of the Wild pour Dany. Non, j'irai pas jusque-là, j'aime bien. Mais bon, c'est pas le truc de ma vie, quoi. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on a encore besoin de voir par les yeux du nazi, de comprendre pourquoi lui aussi, il est malheureux, tu vois. Est-ce qu'il faut encore comprendre les nazis? Et d'autant plus, genre, est-ce qu'on peut pas avoir juste les nazis de l'espace? Eux, ils sont méchants, et c'est tout. Et puis, il n'y a pas de discussion, tu vois. Et je suis parti dans le trailer avec ça.
Alors là, je t'interromps, parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait qu'en fait, l'Alliance et les rebelles ont fait plus de mal à l'univers que l'Empire n'en a jamais fait, parce qu'ils ont détruit, ils ont tué des millions de gens, ont cassé complètement l'économie de la galaxie, etc. Et donc, voilà.
Mais l'ordre a quand même ses avantages aussi. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'étais parti dans cet esprit-là, genre juste, ok, les nazis de l'espace, qu'ils soient eux juste des vrais méchants, au moins, tu vois, dans des histoires. Et à la fin du trailer, c'est marrant parce que à la fin du trailer, je me disais, ah, mais non, mais on peut pas s'arrêter là, on peut pas les laisser gagner, les rebelles doivent tous périr, tu sais, c'était vraiment, il est hyper bien fait ce trailer. Oh, c'est pas le truc de ma vie non plus, mais je trouve que c'est vraiment convaincant. Et du coup, je me demande si tout est de cette qualité dans la narration du jeu, je crois qu'il est pas impossible que je le prenne, parce que c'est vraiment un truc original dans l'univers de Star Wars, un truc réussi par EA, qui l'eût cru. J'attendrai les reviews quand même, mais ce trailer m'a vachement convaincu, alors que bon, comme je vous disais, j'étais pas forcément parti là-dessus à la base. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Quoi d'autre? Pour conclure, AMD a révélé sa nouvelle carte graphique dans Fortnite. Décidément, Fortnite, on fait de tout tout est dans Fortnite aujourd'hui.
Il y a Picard surgelé qui aussi montre les boîtes de leurs meilleurs produits dans Fortnite.
Dis pas de mal de Picard, hein. Je peux dire qu'en Finlande, on les a pas et ça nous manque. Ninja est revenu sur Twitch, je pensais pas, mais finalement il est revenu sur Twitch, j'imagine qu'il y a des grosses histoires dessous derrière. On a parlé de la Xbox Series S, on a eu la confirmation que les jeux Xbox One seront émulés sur Xbox Series S en version Xbox One S. Donc en gros, on n'aura pas les jeux Xbox One X sur Xbox Series S.
Faudra que tu sous-titres aussi pour les éditeurs qui sont pas forcément très au courant de la nomenclature.
Bah, c'est très simple. S égale S, X égale X. Voilà. Bon, il y aura quand même l'amélioration de frame rate et de résolution.
Et X est supérieur à S. Surtout.
Voilà. C'est facile. Le Game Pass sur PC est sorti de bêta, donc il est à 10€. Entre parenthèses, l'astuce pour avoir le Game Pass très longtemps, si vous n'avez jamais été abonné au Game Pass Ultimate, fonctionne toujours. C'est-à-dire que si vous achetez de l'abonnement pour le Xbox Live Gold, qui n'est pas très cher, vous prenez par exemple un an de Xbox Live Gold, et quand vous vous abonnez au Xbox Game Pass Ultimate, eh ben, ça convertit tous ces mois de Live Gold en 1-1 en Game Pass Ultimate. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait il y a des mois de ça déjà. Donc, je suis encore abonné au Ultimate jusqu'en 2022. Donc, ça fonctionne toujours. On me pose la question tout le temps. Oui, pardon ?
Non, j'ai dit OK. Je ne savais pas.
C'est bon à savoir. Si vous êtes, il ne faut pas être abonné au Ultimate. Hein. Ah tiens, et je vois Stadia dans mes notes. J'ai oublié de dire pour Immortals Phoenix Rising qu'il y aura une démo gratuite sur Stadia. Et pour moi, c'est passé complètement à l'as parce que Stadia est, comme d'habitude, complètement à la rue sur toute leur communication. Mais c'est hyper important. Ça veut dire que Stadia va enfin commencer à montrer son potentiel en offrant une démo à tout le monde. Il suffit d'avoir une adresse Gmail, mais vous n'avez rien à acheter, rien à installer, pas de machine à brancher ou à acheter, à mettre sur votre télé. Vous lancez dans votre navigateur, a priori, hein, c'est comme ça que ça va se passer, vous lancez la démo et vous pouvez y jouer direct. C'est le potentiel de Stadia et enfin, ils font des trucs comme ça. Je crois que ça va être plus important que ce que certains vont penser. Alors, une démo, c'est toujours gratuit, mais là, même pas besoin de l'installer. Quand elle sortira, la démo, vous irez dans votre navigateur et vous pourrez la tester sans même avoir besoin d'installer. Je crois que vraiment, ça va montrer le potentiel du truc, quoi. Et enfin, Apple a changé les conditions d'utilisation. On avait beaucoup parlé de cette controverse d'Apple qui refuse les apps de streaming sur leurs App Store. Et ben, ils ont un peu changé les conditions d'utilisation pour admettre Stadia et xCloud. Sauf que ce qu'ils demandent, c'est que tous les jeux des catalogues soient soumis à l'App Store comme un jeu individuel à chaque fois. Donc en fait, je crois que personne ne va le faire, c'est juste ingérable. Bon, à part Stadia qui n'a que 4 jeux de toute façon, peut-être qu'ils se lanceront, mais un petit troll en passant, ça fait du bien. Mais bon, ils changent pour le principe, mais je ne crois pas que ça va changer la situation, on va dire.
Ok.
Et voilà pour nos news. Je crois qu'on arrive à la fin de cet incroyable épisode. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je remercie mes deux intervenants d'avoir été avec moi. Je remercie également la chatroom. J'espère que... Oui, on me pose la question, le Ultimate, le Game Pass Ultimate inclut PC. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça inclut Xbox Live Gold, Game Pass PC et Game Pass console. Et ça coûte seulement 13€ par mois. Donc ça inclut tout, vous avez tous les jeux de tout. Donc, justement, la chatroom qui pose des questions et qui interagit, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Merci à vous d'avoir été là. Avant de se quitter, évidemment, je donne à mes deux invités l'occasion de nous dire où on peut les retrouver. Là encore, honneur aux dames, Trinity, où es-tu sur Internet ?
Alors, sur Internet, je suis majoritairement sur Twitch. Vous tapez Trinity, T-R-I-N-I-T-Y, et vous me trouverez en direct quasiment tous les jours. Et après, je suis aussi disponible sur la chaîne Arte, sur leur site internet pour l'émission Art of Gaming, qui parle de jeux vidéo et de culture, et sur les chaînes de PlayStation. Merci. Et sur les chaînes de PlayStation, leur chaîne YouTube, les replays de mes différents Play Live et Let's Play.
On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours, comme ça les gens peuvent retrouver tout ça.
Merci.
Dany, où es-tu dans le net?
Sur Twitter, facile. Et mon handle, c'est @notdany. Donc, très très facile. N-O-T-D-A-N-Y. Et voilà, je consulte Twitter et tous les jours, de nombreuses fois par jour. Je ne poste pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, je vous lis. Et des fois, je like ou je commente quand il y a un truc qui me fait sourciller.
Un like de Dany, c'est un petit peu comme un platinumé Persona 5 Royal.
Ah non, c'est mieux quand même. Là, c'est un autre niveau.
C'est un achievement de folie. et je confirme que tu réponds quand on te pose des questions.
Ça m'arrive.
Et voilà, donc je rappelle que Dany sera avec nous maintenant que le rendez-vous jeu est hebdomadaire. Je ne l'ai même pas mentionné en début d'émission, mais on est là toutes les semaines désormais pour vous compter l'actualité, compter comme un conte de fées, l'actualité du jeu vidéo. Et Dany sera là avec nous tous les mois, une fois par mois, nous honore de sa présence. Et ben c'est tout. Donc pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont sur notepatrick.com, c'est hyper facile à retenir. Et vous pouvez également suivre la chaîne YouTube, youtube.com/notepatrick, ou aller sur Twitch, twitch.tv/notepatrick, ou rejoindre le Discord, qui n'a pas encore de nom, mais dont le lien est sur le site notepatrick.com. Bon, vous l'avez compris, c'est NotePatrick partout. Et puis surtout, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en notre compagnie et que vous en voulez un petit peu plus de manière un petit peu plus en soutenant la création de cette émission, c'est patreon.com/rdvjeux et le lien est dans les notes de l'émission. Et vous savez que j'aime d'amour tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à eux que je peux faire ce métier et donc sans eux, je ne serais rien. Donc je vous remercie tous infiniment avec mon cœur et mon âme, de toute mon âme. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.